Radio Kapi.
Oh Kapi, le journal de Yvan Lutumba.
Publié depuis la nuit, nous analysons en ouverture de ce journal les résultats des législatives provinciales en ce qui concerne la représentativité de la femme, la répartition des sièges selon les regroupements politiques. Nous voyons également cette question selon les provinces. Vous suivrez également dans ce journal le point sur les échanges des tirs à l'arme des divers types entre la rébellion M23 qualifiée des terroristes par Kinshasa, les groupes armés locaux ainsi que l'armée congolaise dans le Nord Kivu, Kanyamahoro dans le Niragongo et certaines zones de Masisi sont en proie à ces violences. La gestion des fonds du processus électoral de 2023, c'est le principal sujet qui fait l'objet de l'entretien avec l'invité de ce journal, Valérie Madianga, coordonnateur du Centre de recherche en finances publiques et développement local. Restez donc branchés sur Radio Okapi pour en apprendre davantage sur ces aspects de l'actualité congolaise et bien d'autres. Aimable auditeur à l'écoute, merci de cet excellent choix pour votre édification et l'information. Bienvenue et meilleures conditions d'écoute à toutes et à tous. Bonsoir. Élections législatives provinciales, 66 femmes, soit un peu moins des 10% sur 688 députés provinciaux élus dans les 26 assemblées provinciales de la RDC. Ceci ressort des résultats provisoires proclamés ce dimanche 21 janvier par la CENI. Si ce chiffre représente un recul sur le plan de la représentativité de la femme au sein des assemblées provinciales, il faut noter que ce taux est inégalement réparti dans les 26 provinces. Décryptage de René Capita.
Avec 12 femmes, soit près de 30% sur les 44 députés élus à l'Assemblée provinciale, le Haut-Katanga réalise la meilleure performance en termes de représentativité de la femme. Il faut saluer à cet effet le chiffre réalisé à Lubumbashi, avec 8 femmes, soit 40% des 20 députés provinciaux élus dans cette ville, alors que dans l'ensemble des provinces, le taux de représentativité de la femme tourne entre 5 et 20%, et pour certains ce taux est nul, le cas des provinces du Maïndombe, le Maniema, la Mongala, le Sud Ubangi et la Chuapa, où aucune femme n'a été élue députée provinciale. Comparé à 2018, où on a compté 73 femmes élues dans les 26 assemblées provinciales, on parle donc d'un recul en termes de représentativité de la femme au niveau des assemblées provinciales.
Au Kasaï central, les choses n'ont pas évolué pour les femmes aux législatives provinciales, note l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral. La directrice pays de cette organisation constate que, comme en 2018, ce sont encore 2 femmes seulement qui sont élues sur les 31 députés provinciaux, qui pourront siéger à l'Assemblée provinciale. Nathalie Kambala s'indigne de ce manque de confiance des électeurs pour les femmes du Kasaï central, alors que beaucoup d'efforts ont été fournis pour sensibiliser la population à aller voter pour une bonne représentativité au sein des institutions. Ces propos sont recueillis par François Kadima.
Les femmes représentent pratiquement 6%, donc 2 femmes sur 31 postes. Ça veut dire que la fois passée, nous n'avions que 30 postes et 3 chefs coutumiers cooptés. Il y avait 2 femmes. Maintenant, on a 31 postes, il n'y a que 2 femmes. Rien n'a évolué malgré les multiples efforts que nous avons fournis, les structures de femmes, la société civile, les partis politiques. Mais on a senti qu'il y a encore une résistance de la part de notre communauté, peut-être vis-à-vis de l'image de la femme. Je les encourage, celles qui n'ont pas pu être élues ailleurs, comme Lubumbashi, il y a 8 femmes élu contre 12 hommes. Donc ici, il n'y a que 2. Pourquoi ça n'évolue pas? L'année 2018, il y avait une femme à la députation nationale, 2 femmes à la députation provinciale. Heureusement, à l'époque, il y avait beaucoup de suppléants et que les femmes, 2 ou 3 femmes étaient suppléantes, il y avait 5 femmes. Mais maintenant, quand je regarde déjà l'ossature de l'Assemblée de cette fois-ci, la plupart vont rester, ils vont siéger et je ne vois pas les femmes revenir comme des suppléantes.
Parlons à présent de cette réaction de la Mouka à l'appel du président de la République à l'opposition afin de travailler ensemble pour la reconstruction du pays. Selon Prince Epenge, cadre de la Mouka, sa plateforme est d'accord de rencontrer Félix-Antoine Tshisekedi. Interrogé par Radio Okapi, il a ajouté que cette rencontre doit tourner autour des discussions entre toutes les parties prenantes pour dégager les responsabilités des uns et des autres dans ce qu'il appelle le chaos électoral. Prince Epenge le dit à Paul Matendo.
L'idée de discuter tel que M. Félix Tshisekedi le préconise, nous sommes d'accord, mais discuter pour dégager les responsabilités par rapport au chaos électoral qui a semé la désolation et le désespoir au sein de notre peuple, discuter pour élaborer les perspectives afin de donner au peuple la parole lors des vraies élections. Nous pouvons en quelque sorte dire que nous saluons l'idée de parler les uns les autres, Martin Fayulu, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Joseph Kabila et les autres acteurs politiques qui comptent, la société civile évidemment, discuter, échanger sur comment on en est arrivé là et que faire pour que demain notre peuple ne puisse plus être frustré, que notre pays ne soit plus humilié par des élections bâclées. Là, nous ne trouvons pas d'inconvénients.
Dans le Nord Kivu, des violents combats sont signalés depuis tôt ce lundi matin entre les rebelles du M23 et les groupes armés locaux et les FRDC dans la région de Kanyamahoro, dans le groupement Brumba, en territoire de Nyiragongo. La situation est identique dans le Masisi, où des combats sont également enregistrés sur l'axe Mweso-Kashuga, alors qu'une accalmie s'observe dans la matinée de ce lundi sur l'axe Karuba-Mushaki. Le point avec Sifa Maguru.
Des sources locales à Nyiragongo affirment que des tirs à l'arme lourde et légère ont été entendus ce lundi toute la journée dans la région. Les rebelles du M23 auraient lancé des attaques simultanément contre les positions des groupes armés locaux ainsi que celles des FARDC. C'est depuis dimanche soir que des détonations des armes lourdes sont entendues dans la région de Bouumba, ajoute la société civile. Cependant, en territoire de Masisi, des affrontements sont rapportés sur l'axe Mweso, opposant toujours les rebelles du M23 aux groupes armés locaux et aux FARDC. Ces affrontements se déroulent vers les collines de Mbuhi, environ 4 km de Mweso sur l'axe Kashuga. Cependant, au sud de Masisi, une accalmie s'est observée ce lundi sur l'axe Karuba-Mushaki après des violents combats hier dimanche. Cette zone a connu d'intenses combats toute la semaine écoulée. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
À Ituri, plus de 10 000 déplacés du site Paoui dans le groupement Guina dans le territoire de Djougou vivent dans des conditions difficiles. Ils sont dépourvus de tout, pas de vivres, des médicaments, d'eau potable et leurs abris construits en bâche sont déjà vétustes. Les installations hygiéniques sont également saturées et les exposent aux différentes maladies. Ces déplacés en détresse sollicitent l'intervention urgente du gouvernement et des humanitaires. Le point avec Ezekiel Mousalia.
C'est depuis 3 ans que les déplacés des 5 sites dans le groupement Gina vivent sans assistance humanitaire dans le territoire des Djougou. Ces déplacés manquent des vivres et des médicaments. Leurs abris construits depuis 2021 sont déjà vétustes. Une situation qui, selon le président du site Paoui, pousse de nombreuses familles et leurs enfants à passer la nuit à la belle étoile exposée aux intempéries. Telesphore Bakambu indique que certains cas de mortalité infantile ont été notifiés au cours de l'année dernière sans déterminer leur nombre. Il demande aux organisations humanitaire et au gouvernement d'assurer la prise en charge alimentaire et médicale de leurs familles et de garantir la scolarisation de leurs enfants.
Il n'y a aucune assistance du côté des humanitaires. Les mamans souffrent énormément, y compris les enfants. Les cas de mortalité, on n'en parle pas parce que vraiment la cause principale est seulement le manque de nourriture. Nous recommandons au gouvernement de faire retourner les déplacés au village. Trop c'est trop. On est fatigué de vivre dans une situation qui n'est pas propice pour la vie.
Pour se déplacer, la priorité est le rétablissement de la paix dans leur milieu d'origine pour leur permettre de retourner, vaquer librement à leurs occupations. Signalons que ces déplacés sont venus des groupements Nyapala, Tolo, Boudi, Lenga et Beliba, des entités qui ont été plusieurs fois la cible d'attaques des groupes armés. Bounia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
Cet autre aspect d'actualité parmi tant d'autres sur Radio Okapi. Dans la province de Lomami, plus de 200 familles qui vivaient dans le Grand Katanga sont arrivées depuis le week-end dernier à Mweneditu par la voie ferroviaire. Des sources sur place indiquent que ces familles proviennent précisément de Luena, Lubudi, Bukama et Kamina dans la province de Lomami. Certaines familles ont été victimes des menaces de leurs compatriotes du Grand Katanga et d'autres pris de peur ont abandonné leurs habitations et ont décidé de retourner dans leur province d'origine. Des explications avec Esther Ndalafina.
C'est vers 2h du matin de samedi dernier que plus de 200 familles qui se sont déplacées de l'espace Grand Katanga sont arrivées à la gare ferroviaire de Mweneditu à bord du train courrier Diamant Deluxe Fachi Beton. Informé Gérard Chibandakabwe, maire de la ville de Mweneditu, s'est rendu à la gare ferroviaire pour échanger avec ses familles déplacées.
Nous avons reçu à Mweneditu 102 familles venant de Luena, 9 venant de Lubudi, 15 familles venant de Bukama et 84 les familles de Kamina. Et total, 210 familles.
Nombreuses familles se sont installées momentanément au niveau de la gare ferroviaire par manque d'argent pour rejoindre leurs familles. Elles vivent à la belle étoile et manquent de nourriture. Le maire dit avoir fait rapport à sa hiérarchie.
À Kananga, il y a 33 familles en transit pour venir à Mbujimayi. Et il y a 15 familles qui vont rester ici à Mwenedito. Nous avons demandé secours. Ma hiérarchie est déjà informée pour qu'on puisse conduire nos amis vers le lieu de destination. Ils n'ont pas de nourriture. En attendant leur évacuation, il faut vraiment qu'ils puissent avoir quelque chose à manger.
Signalons qu'avant de prendre les trains pour se déplacer vers Mwenedito, certaines familles vivant à Luena affirment avoir passé quelques jours à la gare ferroviaire. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Arrestation depuis 10 jours au parquet de Bassankoussou dans l'Équateur d'un notable avec son épouse. Le couple est accusé de calomnie et d'avoir dénoncé sur les réseaux sociaux la fraude électorale par un candidat à la députation nationale, raison de son invalidation par la CENI. Le point avec Paul-Richard Malingela.
Plusieurs sources à Bassankoussou témoignent l'arrestation du notable Philippe Boketu Bomanga avec son épouse Colette Wangela depuis le 12 juillet dernier. Tous qualifient d'illégale la décision du procureur Emmanuel Mujinga, car celui-ci leur a établi un mandat d'arrêt provisoire à la suite d'une plainte du candidat Sambo Kolombe sur base des dénonciations de fraude électorale dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Vidéo qui le met en cause et qui aurait occasionné son invalidation par la CENI à la députation nationale. Selon Maître Bedel Lofinda, un des avocats de la défense, après analyse de la dite vidéo, tous les 4 griefs formulés par le procureur dont la diffamation, la dénonciation calomnieuse et l'imputation dommageable n'ont pas été prouvées. En conséquence, il exige la libération immédiate de leurs clients qui sont âgés et détenus dans des conditions déplorables, a-t-il dit. Même réaction du collectif des jeunes de Bassankoussou, ils dénoncent ce qu'ils qualifient d'acharnement inutile sur la personne de leur notable alors que son domicile a été cambriolé et il a tout perdu à cause de cette arrestation. Ils en appellent donc au chef de l'État pour la paix sociale. Mbondaka pour Chamalingela, Radio Okapi.
À ce sujet, tous nos efforts pour joindre l'incriminé sont restés vains. Retour dans le Nord Kivu. Une centaine des détenus de la prison centrale du territoire de Masisi sont abandonnés à leur triste sort depuis plus de 6 mois maintenant, faute des magistrats. La coordination territoriale de la société civile qui donne l'alerte affirme que tous les magistrats affectés dans la quasi-majorité de toutes les juridictions civiles et militaires fonctionnelles au chef-lieu du territoire se trouvent actuellement à Goma, où ils ont fui l'avancée des rebelles du M23 sur ordre de leur hiérarchie. Le rapporteur général de cette structure précise que parmi ces détenus, des femmes et des enfants souffrent de la malnutrition et de plusieurs pathologies, car tous les services subsidiaires de cet établissement pénitentiaire ne sont plus opérationnels, explique Télésphore Mitondeke, joint par Gabriel Ouamenia.
Les prisonniers sont en fait sont laissés pour compte parce que maintenant là il faut considérer que ce sont encore une fois des vies humaines dans les prisons abandonnées à leur juste sort parce qu'on est parlé de la procédure judiciaire. D'autant que les audiences ne se font plus et que donc les prisonniers restent dans leur cellule sous forme de colis dans un dépôt. Actuellement il n'y a aucun magistrat civil, donc au niveau du parquet civil il n'y a aucun magistrat, il n'y a que les agents de l'administration qui sont là, mais au niveau de l'auditorat ou du parquet militaire, c'est là qu'un magistrat qui est là actuellement. Mais du reste, en tout cas, le reste des magistrats ne sont pas là, que ce soit le magistrat de siège, tout comme le magistrat de vous, au niveau de l'auditorat ou du parquet militaire.
Les diverses tentatives pour entrer en connexion avec les autorités judiciaires n'ont pas abouti.
Actualité internationale.
Au moins 2 postes des membres permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est une demande pressante de l'Union africaine depuis des lustres. Dimanche, le secrétaire général des Nations Unies a fait part de son optimisme sur le sujet. Antonio Guterres met en avant le feu vert imminent des membres permanents. Dans des déclarations récentes, des déclarations publiques, j'ai vu les membres permanents être favorables à au moins un membre permanent africain. Les États-Unis l'ont dit, la Fédération des Russes l'a dit, la Chine s'est montrée positive à cet égard, de même que le Royaume-Uni et la France. Pour la première fois, j'ai donc l'espoir qu'une réforme, au moins partielle, du Conseil de sécurité des Nations Unies soit possible pour que cette injustice flagrante soit corrigée et que l'Afrique ait au moins un membre permanent au Conseil de sécurité, a dit le secrétaire général des Nations Unies. Pour sa part, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a quitté dimanche soir la base aérienne d'Andros pour entamer une tournée dans 4 pays africains. Il est arrivé ce lundi 22 janvier au Cap-Vert. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken est arrivé aujourd'hui au Cap-Vert où il a rencontré le premier ministre Ulysses Correa et Silva. C'est la première étape de sa tournée qui le mènera à une tournée dans 4 pays de la côte ouest de l'Afrique. Il ira ensuite en Côte d'Ivoire puis au Nigeria avant de se rendre en Angola pour des entretiens portant sur la sécurité régionale, la prévention des conflits, la promotion de la démocratie et le commerce.
L'invité.
Comment prendre les finances du processus électoral de 2023? C'est à cette question que le Centre de recherche en finances publiques et développement local tente de répondre dans son nouveau rapport. Cette structure note un dépassement budgétaire, une opacité dans la gestion des fonds et l'attribution des marchés publics. Pour en parler, nous recevons Valérie Madianga, coordonnateur du CREFEL-DEL. Il répond aux questions de Cynthia Bachizé.
Valérie Madianga, bonjour.
Bonjour madame.
Globalement, grosso modo, il ressort de ce rapport que l'écart entre le montant que la CENI déclare avoir reçu et celui qui a été effectivement décaissé par le Trésor public est de 161 millions de dollars américains. Comment est-ce que vous expliquez ça?
Oui, la gestion d'abord des fonds alloués aux opérations électorales, c'est une gestion qui est pratiquement opaque, irrationnelle et non crédible. Donc, c'est pourquoi vous constaterez que il y a des écarts entre les décaissements et même l'utilisation. Cela démontre que les fonds qui sont décaissés en faveur de la CENI ne passent pas par la chaîne de la dépense publique. Ils ne respectent pas le circuit qui est standard dans le cadre d'une bonne gestion des finances publiques. Et aussi, cela démontre que la CENI n'a pas une seule source de financement. Il y a plusieurs sources de financement. C'est pourquoi la CENI elle-même a du mal à retracer ce qui est réellement décaissé par l'État congolais.
Peut-on avoir une idée sur ces autres sources de financement de la CENI en dehors du Trésor public?
L'unique source qui est reconnue, c'est le Trésor public. Mais dans la pratique, vous avez aussi le Premier ministre au niveau de la primature qui donne des ordres. Vous avez au niveau de la présidence de la République. Donc ça tourne dans tout le sens. C'est pourquoi aujourd'hui, le budget de la CENI a pratiquement explosé. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas réellement qu'est-ce que la CENI veut utiliser avec ces fonds-là.
En parlant d'explosion budgétaire, hein, vous relevez une hausse de 25,1% des dépenses de la CENI entre justement les deux cycles électoraux. Est-ce que vous avez pu approcher la CENI qui peut-être avancer quelques raisons pour expliquer cette situation-là?
Nous avons écrit à la CENI pour chercher à comprendre davantage, organiser une séance de confrontation, c'est-à-dire que les documents que nous avons, on devrait les confronter aux avis de la CENI. Mais la CENI n'a jamais répondu à toutes nos lettres.
En définitive, donc le rapport dit que le budget alloué aux opérations électorales est caractérisé par l'opacité, l'absence de crédibilité et de sincérité des chiffres. Maintenant que le rapport est rendu public, vous vous attendez à quoi?
Maintenant, nous devons passer à la redevabilité. Il faut que la CENI rende compte. Nous ne voudrons plus avoir une CENI qui n'est pas redevable vis-à-vis du peuple congolais, parce que les fonds que la CENI a utilisés, c'est les fonds du contribuable congolais. C'est la population qui est le premier contributeur. C'est à lui de savoir pourquoi la CENI a, par exemple, surfacturé les dispositifs électroniques de vote. Pourquoi la CENI a surfacturé les kits d'enregistrement des électeurs? Parce que nous sommes dans le même pays. La CENI, nous l'avons vu en 2017, la CENI a acheté les kits d'enregistrement des électeurs à 45 millions d'euros auprès de l'opérateur Gemalto. Maintenant, en 2022, la CENI achète les mêmes équipements auprès de Miro System à 92 millions de dollars pour le contrat initial et après, avec un contrat annexe, ce qui nous amène à 130 millions de dollars, pratiquement les triples.
C'est des accusations fortes hein, de surfacturation. Est-ce que vous avez des éléments probants?
Les documents sont là.
Qu'est-ce que vous avez?
Mais les avis d'attribution sont là. Des marchés sont en ligne. Nous, on ne dit rien. Accédez sur le site de l'armée, de l'autorité de régulation des marchés publics. Vous allez voir l'avis d'attribution du contrat passé entre le président Nanga avec la firme Gemalto en 2016. Les documents sont jusqu'à aujourd'hui en ligne. Consultez les nouveaux documents d'attribution du marché que le président Kadima a fait avec Mirou System, le document est en ligne. Nous, on ne crée absolument rien. Vous allez voir 45 millions d'euros et vous allez voir 92 millions de dollars avec Gemalto, avec Mirou System. Tout est en ligne. Donc, nous, on ne crée absolument rien. Ce sont des chiffres de la CENI. C'est la CENI qui est en train de les fournir. Nous, en tant que société civile, nous sommes en train de porter tout simplement notre jugement critique par rapport aux documents officiels, faire des simulations, comprendre que nous sommes dans un même environnement économique, nous sommes dans un même pays, même si on nous dira non, écoutez, il y a par exemple l'inflation, mais nous doutons que même s'il y a inflation, on ne peut pas passer de 45 millions d'euros à 130 millions d'euros juste pour le même besoin. La CENI est restée la même, vous avez les mêmes besoins, mais chaque président vient avec ses chiffres. C'est ce qui n'est pas normal.
Valérie Mandianga, je vous remercie.
Merci, madame.
À Kinshasa, il est 18h20 et c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition de journal préparée par Élisée Chikota, Martin Sebujangwe, Alain Irung et Jude Mister Bilanda assuré la réalisation. Billy Ivan Lutumba vous l'a présenté. Au nom de toute cette équipe, nous vous disons sincèrement merci.